Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Avec 1,45 milliard d'habitants, l'Inde est désormais devant la Chine, le pays le plus peuplé de la planète, et à la différence de celle-ci, continue de voir sa population augmenter. L'Inde est par ailleurs la cinquième puissance économique mondiale. Narendra Modi, le très autoritaire et nationaliste dirigeant indien, s'est fixé comme objectif de faire de l'Inde la troisième économie mondiale à l'horizon 2030 et d'en faire un pays développé d'ici à 2047 qui correspondra au centenaire de l'indépendance du pays. Le 14 février dernier, Narendra Modi rencontrait Donald Trump à Washington. Deux semaines plus tard, Ursula von der Leyen était reçue à New Delhi. Longtemps, l'Inde s'est méfiée de l'Union européenne. New Delhi préférait négocier en bilatéral avec Paris ou Berlin plutôt qu'avec Bruxelles. Mais les temps ont changé pour le géant asiatique comme pour l'Europe. Chamboulé par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les deux blocs partagent la même faiblesse, leur dépendance à la Chine. La présidente de la Commission européenne s'est engagée avec le Premier ministre indien à finaliser un accord de libre-échange d'ici à la fin de l'année et à diversifier la coopération en l'ouvrant sur la sécurité et la défense. La Commission espère trouver dans le marché indien de nouveaux débouchés, notamment pour les voitures, les produits agricoles, le vin et les spiritueux. Une ère nouvelle est-elle en train de s'enclencher entre l'Inde et l'Union européenne alors que l'Europe est le premier partenaire commercial de l'Inde devant les États-Unis et la Chine? L'Inde reste un pays ultra-protectionniste. Le contexte international donnera-t-il le coup de pouce nécessaire pour dépasser les blocages? Regard avec nos invités. Christophe Jaffrelot, expert associé à l'Institut Montaigne, directeur de recherche au CNRS et aux séries de Sciences Po, également professeur de politique et sociologie indienne au King's India Institute de Londres et co-auteur de deux notes parues à l'Institut Montaigne, les défis du Make in India et les dynamiques régionales contrastées de l'Inde. Christophe Jaffrelot, bonjour.
Bonjour.
Également Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
L'Inde et l'Union européenne sont-elles à un moment de leur histoire où elles n'ont plus le choix, qui peut aujourd'hui tenir une relation pour acquise? Les statuts changent à une vitesse vertigineuse, alliés, amis, ennemis, amis d'ennemis. La tendance est un élargissement des partenariats, stratégiques ou non. C'est vrai pour New Delhi qui œuvre entre la Russie, la Chine et les États-Unis pour simplifier. Et pour l'Europe, la consolidation de nouveaux partenariats avec les puissances émergentes s'avère désormais être un impératif prioritaire. L'argument en faveur d'un accord de libre-échange n'a-t-il jamais été aussi fort entre l'Inde et l'Union européenne? Est-ce qu'il y aura accord d'ici à la fin 2025 entre donc les deux entités? Et sur quoi finalement? Autrement dit, est-ce que cet accord promet d'être substantiel, Christophe Jaffrelot?
C'est toute la question. Accord, il y aura. Accord, il y aura parce que, quand même, on a déjà essuyé un gros échec en 2013, lorsque pour la première fois, les deux entités ont cherché à signer un accord de libre-échange. Les négociations ont duré de 2007 à 2013 pour n'aboutir à rien. On a relancé la machine il y a 3 ans. On ne peut pas échouer à nouveau. Il y aura un accord. Maintenant, ce qu'il y aura dedans est justement ce que l'on va regarder de près, car des accords qui sont plus politiques que commerciaux, au final, se multiplient. Celui que l'Inde a signé avec l'Australie est littéralement vide, mais il est signé, mais il a eu lieu. Et donc, toutes les pommes de discorde qui étaient là déjà en 2013, les droits sur les produits agricoles, qui sont quand même, surtout pour les produits laitiers, très compliqués à accepter par les Indiens. La question de tout ce qui a trait à l'automobile. Les Allemands en particulier sont très intéressés par le marché indien. Les Indiens veulent qu'on investisse pour créer, pour construire des automobiles, pas pour les importer.
Un peu comme Donald Trump, mais ça on en parlera.
Exactement, mais c'est ce qui fait que peut-être politiquement, ils ont intérêt effectivement à s'attendre. Et puis, vous avez une autre question. La liste est très longue, mais je la limite à quelques items. C'est la question de la protection des données personnelles, qui joue quand même pour tout ce qui est e-commerce, pour tout ce qui est localisation des données. Nous avons une RGPD très protectrice en Europe. L'Inde ne s'est pas dotée d'une loi digne de ce nom en la matière. Et tout dernier point, les Indiens veulent mettre dans ce genre d'accord la circulation des personnes et la question des visas. Il l'avait déjà voulu en 2013. Ils veulent à tout prix pouvoir envoyer des ingénieurs informaticiens. C'est ça principalement qu'ils veulent pour que leur secteur informatique ait des clients encore plus nombreux en Europe. La question de l'immigration est tellement sensible en Europe que ça risque là de bloquer aussi. Donc, oui, il y a une volonté politique dans un contexte où on est appelé à se rapprocher face aux États-Unis, bien sûr. Mais jusqu'où cette volonté politique peut-elle se traduire par des avancées substantielles et non pas cosmétiques? C'est vraiment la question que l'on va devoir scruter de très près.
Jean-Luc Racine, votre regard à vous sur cette... sur cet accord de libre-échange que Mme von der Leyen a promis de signer avant la fin de cette année 2025.
Alors là, moi ce qui me frappe, c'est le discours de Modi d'un côté et de von der Leyen de l'autre, en préambule au texte de l'accord, qui est un texte quand même assez long, avec plus d'une douzaine de points. Il y a toute une rhétorique à laquelle on est maintenant habitué, la plus grande démocratie du monde, les valeurs partagées, nous avons la même vision de ce que doit être l'ordre mondial. Sur l'Ukraine, nous sommes pour le respect des territoires et des souverainetés. Pour le Moyen-Orient, nous sommes pour la solution à deux États. Bon, au-delà de ça, vous l'avez souligné d'entrée de jeu, traditionnellement, dans la diplomatie indienne, Bruxelles n'était pas vraiment une cible première. Les relations bilatérales étaient beaucoup plus décisives. C'est ce qui explique que, bon, cela dit, Mme von der Leyen était déjà venue en Inde en 2022, si je ne me trompe, mais cette fois, elle est venue avec une délégation extraordinaire. Quasiment tous les commissaires étaient là. Et aussi bien, d'un côté, on entend Narendra Modi dire tout à coup que le partenariat stratégique entre les deux entités, qui a une vingtaine d'années maintenant, est tout à fait naturel, c'est le qualificatif qu'il emploie. Et de l'autre côté, la présidente de la Commission souligne que ce qui est en jeu, c'est un véritable changement historique. Très bien. Bon, au-delà de la rhétorique, ce qui me frappe, c'est le très large agenda qui est mis sur la table. Le premier point de l'agenda, on l'a dit, c'est de trouver miraculeusement une solution à l'accord de libre-échange qui traîne depuis maintenant une décennie et demie et qui... La solution doit apparaître dans les mois qui viennent avant la fin 2025. Ça n'est pas tout à fait impossible, mais encore une fois, tout dépend de ce qu'il y aura dedans. On voit quand même une évolution indienne dans son protectionnisme. Très récemment, les droits sur les pièces sensibles qui touchent aux véhicules électriques ou aux portables ont été supprimés, les droits de douane indiens. L'idée, et ça a été analysé aussi à l'Institut Montaigne, c'est de faire en sorte qu'on puisse fabriquer sur place ce qu'on importe. Et de ce point de vue-là, bon, il y a un point commun avec la politique américaine. Mais au-delà de ça, pour moi, la question, c'est est-ce qu'un si large agenda... est crédible. Bon, alors cela dit, c'est le rôle de la diplomatie, on affiche de grands objectifs et puis rien ne dit qu'on réglera tout en quelques mois ou en quelques années. Mais ce qui est remarquable, c'est que justement, dans le texte, dans la déclaration conjointe qui a été signée, on a une très large liste de points. Le premier, on l'a dit, c'est un accord de libre-échange. De façon marquante, il y a une volonté d'accentuer les partenariats en matière de défense et pas simplement dans l'océan Indien avec des manœuvres conjointes. Mais ça va beaucoup plus loin. La question est-ce que l'Union européenne est équipée pour ça par rapport à ses États membres, par exemple? Et puis, il y a tout le discours sur « nous allons travailler ensemble sur le changement climatique ». Pour l'Inde, c'est une façon de promouvoir l'énergie à l'hydrogène sur un marché difficile sur lequel elle essaie de se positionner. Et puis, on a comme ça une liste de 8 à 10 points qui sont extrêmement larges et qui incluent aussi de façon assez intéressante, des volontés de partenariat triangulaire, Union européenne-Inde, et il y a là-dedans des pays de l'Indo-Pacifique et l'Afrique, et pas seulement l'Afrique bordière de l'océan Indien. Donc c'est extrêmement ambitieux, reste à voir ce qui pourra être concrétisé.
Ça ne nous rend pas, et l'auditeur non plus, vraiment très optimiste sur, sur ces relations entre l'Union européenne et l'Inde. Quels sont les créneaux sur lesquels les Européens ont une véritable force? Et finalement, qu'est-ce que les Indiens attendent des Européens, Christophe Jaffrelot?
Ben, ils attendent des Européens des choses différentes en fonction des Européens dont on parle. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est sur le terrain du commerce, ça ne peut être que l'Union européenne. Quand on arrive sur le terrain de la défense et de la sécurité, l'Union européenne n'a pas grand-chose à offrir. Bien sûr, il y a l'opération Atalante, bien sûr, il y a Crimario, hein, et on va voir Crimario 3 cette année, après avoir eu Crimario 1, Crimario 2, tous les 5 ans, on renouvelle.
Crimario,
et Crimario va être certainement un lieu, un cadre dans lequel on va pouvoir faire du partage de renseignements, hein, des centres de fusion pour que dans l'Indo-Pacifique, on partage nos informations, de manière à ce que cet immense espace puisse être contrôlé, entre guillemets, surveillé par tous les pays qui ont voix au chapitre, à commencer par la France, qui est puissance résidente dans l'Indo-Pacifique. Mmh. Mais quand même, quand on parle de défense et de sécurité, c'est justement à la France qu'on pense. Mmh. Hein, c'est là qu'on va pouvoir diversifier ses sources d'approvisionnement militaire. Hein. Les Indiens sont à la recherche d'une diversification de leurs approvisionnements militaires. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on ne cesse d'annoncer la vente de Rafale et de Scorpène, d'ailleurs, hein, les sous-marins, à mesure que les visites se succèdent. C'est-à-dire que quand Narendra Modi est venu invité d'honneur du 14 juillet 2023, on a annoncé la vente des Rafales et des Scorpène. Quand Emmanuel Macron a été l'invité d'honneur de la fête de la République en Inde, on a à nouveau annoncé la vente des Rafales et des Scorpène. Ce contrat est coincé quelque part. Hein. Il est important. Et quand on parle évidemment d'industrie, d'investissement industriel, c'est vers les Allemands et les Italiens qu'on se tourne. Et là, on va retrouver quand même des logiques assez bilatérales. Sauf si véritablement l'Union européenne réussit à faire ce qu'elle a annoncé avec les Golden Gateways, hein, lorsque Juncker en 2022 annonce 300 milliards de dollars, d'euros, pardon, d'investissement dans les infrastructures que les entreprises européennes sont invitées à produire eux-mêmes en s'associant. Mais on ne voit pas les grands champions industriels européens, allemands, Siemens, français, Alstom, ensemble contribuer à ce grand projet. Et donc, on va encore avoir des logiques nationales à l'œuvre, et les Indiens seront tout à fait joués des compétitions et des concurrences intra-européennes, chacun ayant sa spécialité.
Intra-européenne et pas seulement, et je reviens et je reste sur la question de l'armement. Jean-Luc Racine, l'Inde vient de retarder la signature du contrat d'acquisition de 26 rafales marines. Alors, 36 rafales ont déjà été livrées. Parmi les visites que Christophe Jaffrelot évoquait, on peut aussi signaler qu'au moment du sommet sur l'intelligence artificielle qui s'est déroulé à Paris récemment, Narendra Modi était co-organisateur avec Emmanuel Macron de l'événement. C'est une façon aussi voilà, c'est de la diplomatie. Et la question donc des sous-marins Scorpène, signés en avril 2024, c'est-à-dire il y a un an, et puis il y a aussi des hélicoptères en ligne de mire. En fait, la question, au-delà de ça, c'est la grande rivalité ou les pressions ou les mesures d'intimidation qui sont faites par Washington, qui propose la fourniture d'avions de chasse F-35, ce qui, évidemment, pourrait être préjudiciable à la France. Voilà, on est un petit peu dans tout ça,
oui,
Jean-Luc Racine.
On est dans tout ça. Alors, cela étant, il faut bien voir que les 36 rafales qui avaient été vendues à l'Inde, c'était pour l'Indian Air Force, alors que là, ce qui est en jeu, ce sont des rafales marines, c'est-à-dire pour les porte-avions indiens. Alors que les Scorpène, c'est simplement la prolongation d'un accord, les Scorpène étant construits sur place, pas loin de Bombay. Mais vous avez raison, Il va y avoir pour le gouvernement indien un dilemme à résoudre. C'est que dans les tractations avec l'administration Trump, il faut se rappeler que si Narendra Modi, assez curieusement, n'a pas été invité à l'inauguration de Trump, c'est son ministre des Affaires étrangères qui était présent. Et Modi est ensuite allé à Washington, un des premiers leaders étrangers à être accueilli par Trump. Mais on sait très bien qu'il va y avoir des pressions. Enfin, c'est dit d'ailleurs, bon, on connaît la façon de faire du président américain, pour que l'Inde investisse davantage dans les produits militaires américains. Donc il peut y avoir effectivement une concurrence. À ceci près, et le choix sera délicat parce que on sait que les forces militaires indiennes, et en particulier l'Indian Navy, veulent des rafales marines. Et que
l'Indian Air Force, ils ne veulent pas de F-35.
L'Indian Air Force est satisfaite des rafales qu'elle a. Donc, point d'interrogation. Enfin, je pense que l'accord finira quand même par se concrétiser. Pour le reste, évidemment, on ne peut pas à la fois concevoir ce qu'est la nouvelle orientation de la politique étrangère de l'Union européenne à la recherche de nouveaux partenaires. Bon, c'est pas seulement Modi qui dit que l'Inde va être la troisième puissance économique du monde. Mmh. Elle va être la troisième puissance économique du monde dans très peu d'années. Il n'y a qu'à comparer son taux de croissance, 6,5, 7% selon les années, avec le taux de croissance japonais et le taux de croissance allemand.
Mais une industrie qui est à la peine par ailleurs.
Industrie qui est à la peine. Et ça, c'est un gros problème dans les négociations qui vont venir. On sait bien que Narendra Modi a voulu, avec sa politique du « Make in India », attirer les investissements étrangers. Les Européens sont d'ailleurs les premiers à cet égard. En Inde, pour fabriquer en Inde et vendre en Inde ou à l'exportation. Mais les transferts de technologie ne suffisent pas. Mmh. C'est utile dans certains secteurs, mais la base industrielle indienne reste relativement faible en termes d'emploi. Et ça, c'est quelque chose de structurel. Donc ça, c'est pas... Après, il y a d'autres problèmes qui se posent. Ça a été évoqué par Christophe, mais par exemple, il y a des groupes de pression indiens qui disent quand même, on nous accuse d'avoir des barrières tarifaires très hautes, mais en même temps, l'Union européenne impose des taxes carbone sur des produits comme l'acier et comme le reste.
C'est une façon déguisée de faire la même chose.
C'est une façon déguisée de faire la même chose. Et puis, il faut quand même se rappeler qu'il y a une certaine tradition de critique de l'Europe, dans la diplomatie indienne d'une part et chez un certain nombre d'observateurs, pour certains d'anciens ambassadeurs. Il faut se rappeler par exemple que le ministre des Affaires étrangères indien, Ajay Shankar, avait qualifié l'Europe d'hypocrite il y a quelque temps en prélude à un des fameux dialogues Resina, les grandes rencontres géopolitiques indiennes annuelles. Mais on est là maintenant très clairement dans un autre contexte, mais tout ne sera pas facile. Von der Leyen l'a elle-même reconnu en disant que justement l'ambition est telle pour le nouvel accord bilatéral que il faudra beaucoup de volonté pour y parvenir, ce qui suppose bien entendu que chacun fasse des concessions en matière de tarifs et de protection.
Donc du chemin à faire de part et d'autre, j'ai pas le temps de vous lancer une nouvelle question, mais simplement je reviendrai dessus dans la deuxième partie de l'émission sur cette trajectoire de développement économique plutôt assez atypique de l'Inde avec un secteur manufacturier qui est passé de 17% à 13% en 2023. C'est tout à fait intéressant à souligner. Et la question qui se pose, c'est le pourquoi et peut-être qu'il y a des choses à dire du côté chinois. Christophe Geoffrelot et Jean-Luc Racine, on vous retrouve après le journal. À tout.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités pour parler de l'Inde et de la récente visite de Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne en Inde, pour évoquer les relations entre l'Inde et l'Union européenne. Nos invités, Christophe Jaffrelot, expert associé à l'Institut Montaigne, directeur de recherche au CNRS et aux séries de Sciences Po également, professeur de politique et sociologie indienne au King's India Institute de Londres et co-auteur de deux notes parues à l'Institut Montaigne, les défis du Make in India et les dynamiques régionales contrastées de l'Inde, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à AsiaCentre. On a terminé la première partie de l'émission sur alors, les critiques que pouvait formuler l'Inde à l'égard de l'Union européenne. Jean-Luc Racine mentionnait ce propos du ministre indien des Affaires étrangères qualifiant l'Union européenne d'hypocrite. Ce sera intéressant de revenir peut-être dessus. Mais surtout, cette chose tout à fait atypique concernant l'Inde, Christophe Jaffrelot, c'est cette trajectoire de développement économique qui veut que le secteur manufacturier, au jour d'aujourd'hui, en 2000, alors c'était le chiffre de 2023, mais je pense que depuis cette date, les choses n'ont pas vraiment bougé, c'est 13%. Qui laisse entendre aussi le poids du secteur agricole et faire de l'Inde la troisième puissance économique mondiale avec finalement cet handicap en dit long du travail à faire du côté de New Delhi. Est-ce que la Chine a une part de responsabilité dans tout cela ?
Oui, il y a une responsabilité indirecte au sens où l'Inde importe des produits chinois autant que nous, j'allais dire. Et d'ailleurs, le déficit commercial de l'Inde avec la Chine flirte avec les trois chiffres. On est entre 85 et 100 milliards de dollars tous les ans. C'est énorme. Mais c'est aussi parce que l'Inde n'a pas développé son industrie que la Chine peut ainsi submerger le marché indien de produits manufacturés. Et donc là, on a une question plus compliquée à résoudre. Pourquoi, après tant d'années d'efforts, l'Inde n'a-t-elle pas su se doter d'une industrie ? Alors, il y a des explications qu'on pourrait carrément qualifier de culturelles, qui ne sont pas à négliger. Le travail manuel, la culture industrielle, c'est pas ce que les hautes castes privilégient. Et vous avez dit, ça reflète le poids du secteur agricole, le faible poids de l'industrie. Ça reflète aussi le poids du secteur des services, parce que c'est là que l'Inde excelle. C'est là qu'elle a un moteur. Mais ça, c'est typique justement de ce que l'éthos des hautes castes privilégie. Ce sont des scientifiques, ce sont des matheux, ce sont des gens qui ne travaillent qu'avec leur tête, ce qui est déjà beaucoup, mais pas autant avec leurs mains. Et deuxièmement, vous avez un capitalisme indien qui a de grandes forces dans le domaine commercial. Ce sont des marchands. Ce ne sont pas des gens qui vont innover, qui vont investir dans l'innovation. Ils vont acheter le savoir-faire plutôt qu'ils vont eux-mêmes développer et avoir une R&D, comme on dit, recherche et développement. L'Inde a un des plus bas taux de R&D au monde. On n'a pas innové dans l'industrie depuis très longtemps.
Est-ce à dire, Christophe Jaffrelot, que ce sont les oligarques indiens qui ont la main sur l'économie indienne et sur ce qui doit être fait ou pas ?
Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Longtemps, ça a été l'État qui a eu la main sur l'économie indienne. Et ça n'a pas aidé non plus, dans bien des domaines. Maintenant, effectivement, vous avez une demi-douzaine de grands oligarques. On ne peut pas les appeler chefs d'entreprise, parce que ce ne sont même pas des entrepreneurs, littéralement. Ce sont ou bien des héritiers ou bien des marchands qui se sont mis dans le sillage de politique et qui ont acquis des parts entières de l'économie indienne. Vous pensez, par exemple, pétrole, raffinage de pétrole. Les plus grandes raffineries du monde sont en Inde maintenant. On raffine le pétrole russe pour le réexporter vers Rotterdam et la Grande-Bretagne parmi bien d'autres destinations. Bon, ce sont deux, trois oligarques. Le plus important d'entre eux, Gautam Adani, a fait toute sa fortune dans le sillage de Narendra Modi depuis 20 ans. Protégé de toutes les concurrences possibles. C'est aussi pour ça que l'Inde est protectionniste, parce que dès qu'un concurrent étranger se révèle un peu dangereux, on le bloque pour faire plaisir ou pour ne pas déplaire à celui qui paye les campagnes électorales et qui paye bien d'autres choses encore pour le pouvoir. Donc vous avez effectivement tout un écosystème qui rend le passage à l'industrie compliqué, mais avec des conséquences énormes. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas d'industrie, vous ne créez pas d'emploi, vous ne pouvez pas faire que le trop-plein de main-d'œuvre agricole se déverse dans les secteurs industriels. Et du coup, on reste à la campagne et on a même une re-ruralisation de l'Inde qui est quand même très spectaculaire depuis le Covid. On n'a pas réussi à faire repartir tous ceux qui étaient revenus à la campagne dans les villes. Et deuxièmement, vous avez un problème de dépendance. Parce que quand on n'a pas d'industrie et pas d'industrie de défense digne de ce nom, on importe 20 milliards de dollars d'armes tous les ans et on est obligé de diversifier ses approvisionnements pour ne pas être dans la main de quelques pays qui auraient évidemment la technologie comme les Russes, mais maintenant effectivement aussi les Français, les Américains. Ça a beaucoup de conséquences. Être la troisième puissance du monde sans industrie militaire, c'est impossible. On peut être la troisième économie. Mais la troisième puissance, c'est autre chose.
Donc l'Inde en est loin. 2047, pour célébrer le centième anniversaire de l'indépendance de l'Inde, Jean-Luc Racine, les choses vont être assez compliquées.
Oui, elles sont compliquées à deux égards. Il y a donc ce déséquilibre dans les grands secteurs économiques d'un côté. Et de l'autre côté, il faut toujours se rappeler que si l'Inde est aujourd'hui la cinquième puissance économique en termes de PNB, à l'indice de développement humain, elle est 134e. Alors, est-ce qu'on peut être une grande puissance ? Alors, bon, on sait bien qu'il n'y a pas de lien indissociable entre le degré de la puissance et le type de société. Mais il y a là un point d'interrogation. Pour autant, je crois que on commence à voir un changement dans la politique indienne. En tout cas, dans la réflexion qui mène à la politique indienne. On a vu il y a quelque temps le conseiller économique du gouvernement s'interroger sur la question suivante. Est-ce qu'après tout, plutôt que d'importer massivement des produits chinois, on ne devrait pas se résoudre à accepter que les Chinois viennent implanter des usines en Inde? Ça renforcerait notre industrie, ça créerait des emplois. Et c'est aussi dans ce cadre qu'il faut voir le réchauffement relatif, mais enfin, qui est quand même notable entre l'Inde et la Chine.
Ça, c'est quand même une révolution, on peut le rappeler à nos auditeurs. La relation entre la Chine et l'Inde a toujours été très compliquée. Alors, il y a eu un différent frontalier qui a trouvé une solution en 2024. Tout ça montre que petit à petit, mais tout de même...
En même temps, il faut se rappeler que du temps de Nehru, d'ailleurs, ça a été reproché à Nehru d'être trop sinophile. Mais de façon assez intéressante, Modi, dans un long entretien avec un podcasteur américain qui est sorti il y a une quinzaine de jours à peu près, a tenu un discours sur la Chine qui a été applaudi à Pékin.
Qu'est-ce qu'il disait
Il disait, nous sommes les deux grands États-civilisation, nous avons eu des échanges millénaires, et on devrait pouvoir s'entendre, y compris quand on a des différends, pourvu que les différends ne mènent pas au conflit. Donc, il y a un peu un changement de pied, mais enfin, ça ne résout pas la disparité entre les deux puissances. La Chine, c'est 4 à 5 fois le PNB indien. Donc, point d'interrogation. Il y a un autre point qui mérite intérêt vis-à-vis des États-Unis, et on parlait de l'agriculture. Il y a en ce moment, encore une fois, un mouvement de paysans indiens contre des réformes du marché agricole que Modi voulait mettre en place. Hier, ce mouvement paysan a dit « Attention, nous, on s'oppose à la négociation d'un accord de libre-échange entre l'Inde et les États-Unis sur les produits agricoles. » Mais si c'est... Il n'y a pas que les États-Unis.
Parce que dans
l'accord avec l'Union européenne qui va être négocié, il y aura aussi des questions agricoles. Donc il faudra faire passer la pilule, si j'ose l'appeler ainsi. Ça ne sera pas simple. Mais j'ai l'impression qu'on sent quand même, au sein du gouvernement indien et dans les cercles qui contribuent aux décisions, une évolution vers une ouverture qui est à peu près vu maintenant comme indispensable. Et donc, c'est bien sûr la pression de Trump, mais ça va au-delà parce que ça impacte tous les autres partenaires. Et finalement, l'Union européenne montre que ça les impacte dans les deux sens, aussi bien les partenaires Inde, puissance étrangère, que le partenaire européen qui cherche lui aussi de nouveaux partenaires.
Alors, ouverture avec la Chine, on est sur ce dossier-là. Est-ce qu'on peut parler de rapprochement, Christophe Geoffroy ?
On n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'on a totalement changé de ton. Ça a un an, cette évolution. C'est intéressant parce qu'il y a un an, justement, on arrivait au 10e anniversaire du programme Make in India, qui se révélait être un échec. L'Inde n'a pas réussi à s'industrialiser à travers cette ouverture. Les Américains n'y sont pas allés. Dans le document qui accompagne le vote du budget, l'Economic Survey, on pouvait lire en toutes lettres, c'est vers la Chine qu'il faut se tourner pour nous industrialiser. Et on va peut-être profiter du coup de ce que les Chinois font ailleurs, hein. Ils réinvestissent au Vietnam, ils réinvestissent au Bangladesh, pourquoi pas en Inde, pour justement contourner le de-risking ou le decoupling que les Occidentaux ont mis en place. C'est ce qui se passe pour certains produits. L'iPhone est maintenant assemblé en Inde. Est-ce que les composants de l'iPhone seront aussi construits en Inde? Ça, c'est l'étape d'après. Et ce seront les Chinois qui feront le travail. Donc, on est en train de gommer les aspérités liées aux affrontements transfrontaliers pour permettre que les économies se rapprochent. Et finalement, il se passe ce que moi, j'avais prédit en un sens il y a déjà longtemps, c'est-à-dire que les Chinois ont déjà posé un pied dans tous les pays voisins de l'Inde. Bon, le Pakistan a commencé depuis longtemps, mais on voit les investissements chinois quasiment partout. Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Maurice. Ça a commencé par les ports. Il ne serait pas inconcevable que les Chinois finissent par être ceux qui industrialisent l'Inde. En tout cas, qui crée des usines. Alors là, pour l'instant, sans qu'il y ait de débat, sans que ça n'apparaisse au grand jour, mais subrepticement, c'est peut-être ce qui est en train de se faire. Et pour nous, ça a beaucoup d'importance. Parce que, rappelons-nous, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'Inde? Pour diversifier nos sources d'approvisionnement. Si, en fait, ce sont des Chinois qui fabriquent en Inde ce qu'on achetait avant aux Chinois, qu'est-ce qu'on a diversifié? Et on a ce problème dans le médicament générique. Aujourd'hui, on achète des génériques indiens dont les composants, les principes actifs viennent de Chine. S'ils sont fabriqués en Inde par des Chinois, on aura le même problème. Donc il faut avoir cette réflexion, et on ne l'a pas suffisamment en Europe. Qu'est-ce qu'on attend de cette relation avec l'Inde? Si c'est de la diversification des sources d'approvisionnement, il faut réfléchir à deux fois.
Et la question justement de l'industrialisation, ou de la contribution européenne à l'industrialisation de l'Inde, est-ce qu'elle se pose, Jean-Luc Racine?
Oui, parce que, elle se pose sans être tout à fait négative. L'Union européenne est la principale source de financement économique étranger en Inde. La question est de savoir si l'accord souhaité, au-delà de l'accord de libre-échange, qui sera évidemment une pièce essentielle, mais quand on regarde encore une fois ce qui est sur la table, et par exemple la création d'un conseil pour le commerce et la technologie joue un rôle clé dans tout ça. Intelligence artificielle, entre autres, tout ce qui peut toucher aux technologies sensibles, y compris, bien sûr, les chaînes d'approvisionnement.
Les semi-conducteurs sont au cœur du sujet.
Et donc, tout ça est sur la table avec l'Union européenne. Donc, celle-ci a, dans ce domaine, un certain nombre d'atouts. On semble avoir une volonté politique nouvelle de la part de Bruxelles. Reste à savoir comment le PULSE va se mettre en place. Ça n'est pas simple, mais ça n'est pas impossible qu'on voit quand même des changements notables. Et on peut tout à fait imaginer que d'un côté, l'Inde s'ouvre à des investissements industriels chinois et de l'autre côté, veuille avoir davantage d'investissements industriels européens. Ce n'est pas du tout contradictoire. La question, c'est jusqu'à quel point l'Inde, qui est en train de négocier aussi un traité de libre-échange avec les États-Unis, et avec le Royaume-Uni, mais avec les États-Unis, jusqu'à quel point les pressions de Trump sur l'Inde vont être un agent perturbateur de ce dont on est en train de discuter.
Alors, est-ce qu'on a la réponse? Non, pas tout de suite, pas encore, mais
non,
tout de même,
Christophe Jaffrelot. On a la méthode. L'Inde cherche à être plurilatérale, pour reprendre la formule de Jaishankar, ministre des Affaires étrangères. Donc, garder une équidistance alors, vis-à-vis des États-Unis, de l'Europe et de la Russie.
Voilà, je vous laisse, c'était le prochain sujet.
Il est au cœur de notre préoccupation d'Européens quand même. Jusqu'où peut-on être partenaire d'un ami de la Russie? par les temps qui courent. Le grand écart a ses limites. Alors, comme le disait Shashankar, l'Europe est très hypocrite parce qu'elle achète à l'Inde le pétrole russe qu'elle raffine pour nous. Hein, et Dieu sait si ça a fait exploser le commerce d'abord entre la Russie et l'Inde, ensuite entre l'Inde et les Européens, parce qu'aujourd'hui, le premier poste d'importation pour les Pays-Bas, c'est le pétrole. Pour les Britanniques, c'est le pétrole. Quand on commerce avec l'Inde, c'est du pétrole qu'on échange, hein, en tout cas qu'on importe. Bon, au-delà de la question des sanctions, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, c'est que l'Inde contourne les sanctions qu'on a imposées, mais avec notre bénédiction. Mais au-delà de la question des sanctions, c'est la question de la relation quand même très très forte entre Delhi et Moscou. Si véritablement Poutine ne veut pas négocier en Ukraine, qu'on est dans une véritable confrontation qui peut prendre une tournure militaire, comment peut-on être aussi bienveillant avec l'Inde? Alors ça c'est en filigrane, ça demande confirmation, mais avec le soupçon que certains des matériaux sensibles que nous avons vendus à l'Inde se retrouvent en Russie aussi.
Ça a été prouvé, ça, sur...
C'est un soupçon,
oui.
Plus qu'une certitude.
Sur de l'armement.
Oui. Et ça, c'est quand même ce qui, entre guillemets, nous pendait au nez. Mmh. À force d'exporter des matériaux sensibles par rapport à un pays qui a quand même une relation militaire très forte, avec des transferts de technologies très importants en provenance de la Russie, jusqu'où est-ce qu'on veut prendre ce risque?
Avec la Russie, il faut le rappeler, qui est partenaire stratégique pour l'Inde depuis la signature du traité d'amitié et de coopération de 1971. On a passé du temps sur la Chine, Jean-Luc Racine. La Russie, c'est vraiment le gros caillou dans la chaussure de ce que nous évoquons, cet partenariat entre l'Union européenne et l'Inde, où là aussi... C'est mentionné, ça, mais...
Alors, non, c'est très important, et en même temps, on voit des inflexions. Jusqu'à quel point elles sont significatives ou importantes pour l'avenir, c'est trop tôt pour le dire. Mais d'une part, le potentiel russe dans les achats de défense indien, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est le premier importateur mondial d'armement, mais derrière, c'est l'Inde qui a dépassé maintenant l'Arabie Saoudite. La Russie, maintenant, c'est moins de 50% des achats de défense indiens. Et la France vient en second devant les États-Unis, d'une part. Mais il y a eu évidemment des interrogations dans les milieux de la défense indienne sur l'incapacité de Poutine à remplir sa promesse. On arrive à Kiev en trois jours ou en trois semaines, d'un côté. De l'autre côté, dans les relations de défense, l'Inde a pas tout à fait apprécié que des contrats importants, je pense au missile S-400 en particulier, qui était un contrat notable, il n'a pas été honoré par la Russie, parce que évidemment la Russie n'est pas en train d'exporter beaucoup d'armes en ce moment vis-à-vis de la guerre qu'elle a entamée côté ukrainien. Donc il y a des points d'interrogation, mais pour autant, la Russie reste un partenaire essentiel en matière de défense. Et donc, ça, mais encore une fois, l'Union européenne, mais les États-Unis aussi, acceptent le fait établi. Quand Biden était président, il avait fait part de son mécontentement quand l'Inde contournait les sanctions vis-à-vis de la Russie. Mmh. Mais et le Pentagone et le Département d'État lui ont fait passer le message...
Gentiment, parce que tout le monde y trouvait son intérêt, d'une certaine manière.
Hein? Donc ça, c'est un des atouts de l'Inde, justement. Mmh. Cette capacité à jouer un peu sur tous les tableaux, ça compense ce que peut être sa faiblesse structurelle dans l'industrie qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple.
Mais ça peut faire office de conclusion, et je m'aperçois aussi qu'on n'a pas parlé de la coopération trilatérale entre New Delhi, Séoul et Tokyo, qui refait surface, mais en tout cas, voilà, il y avait plein de sujets à évoquer, et cette émission particulièrement passionnante. Merci à chacun. Christophe Jaffrelot, je rappelle que vous êtes expert associé à l'Institut Montaigne, directeur de recherche au CNRS et aux séries de Sciences Po, également professeur de politique et sociologie indienne au King's India Institute de Londres, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, David Brocouet à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au journal.